L'ethno-musicienne Corinne Sombrin a découvert la transe chamanique en Mongolie, la transe des chamans, oui. Et elle l'a étudiée et raconte cette rencontre entre la tradition et la science, parce qu'aujourd'hui, elle maîtrise cette transe, elle se met en transe, elle l'enseigne. Elle renseigne surtout la science sur le cerveau humain. Son expérience a inspiré un film, Un monde plus grand, avec Cécile de France, et elle revient aujourd'hui avec La diagonale de la joie, chez Albin Michel. Écoutez bien, Corinne Sombrin, écrivaine, spécialiste de la transe chamanique, elle est mon invitée.
Le tête-à-tête.
Mathieu Béliard.
Bonjour Corinne Sombrin.
Bonjour Mathieu Béliard.
Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1. Alors pour éclaircir quelques points de base déjà, c'est quoi un chaman ?
Ah oui, bonne question. Alors un chaman dans la tradition mongole par exemple, c'est un lien entre le monde des humains et le monde des esprits. D'abord, on consulte l'invisible et donc ce qu'ils appellent des esprits avant de prendre une décision. Donc c'est le rôle du chaman.
Ensuite, c'est quoi la transe ? On parle d'état modifié de conscience, c'est la même expression que pour l'hypnose, c'est similaire ?
Alors c'est l'étude qu'on est en train de mener au CHU de Liège, et pour mesurer justement les similitudes et les différences entre l'hypnose, la méditation et la transe qu'on appelle cognitive auto-induite.
Alors Corinne Sombrin, on va reprendre quelques éléments de votre histoire pour nos auditeurs. Au début des années 2000, vous êtes en Mongolie dans le cadre de votre travail d'ethnomusicienne et vous assistez à une séance de transe chamanique.
Je dois faire un reportage pour la BBC et j'assiste à une transe. Voilà, donc le chaman entre en transe pour aller interroger ce monde des esprits dont on a parlé, au son d'un gros tambour qui fait à peu près un mètre de diamètre. Voilà, donc le chaman commence à jouer du tambour et ça fait un effet auquel je ne m'attendais pas du tout. C'est-à-dire que je me vois en train de sauter, bouger. Et puis surtout, il y a des sons qui sortent de ma gorge qui sont des hurlements de loup. Hein. Donc en sortant de cet épisode, on va dire, le chaman discute avec l'ami qui m'a accompagné en Mongolie et lui demande pourquoi tu m'as pas dit qu'elle était chamane. Voilà. Il y en a un sur 100 000 à peu près, hein, pour qui ça arrive en Mongolie. Bah, c'est que j'avais été désignée par les esprits, j'avais reçu ce qu'ils appellent l'étincelle chamanique, ouais. Et que je devais être formée par eux pendant quelques années.
Alors attention, hein, il ne s'agit pas de cours du soir pendant 3 semaines. Hein.
Non, ça devait durer 3 ans. 3 ans à la frontière de la Sibérie, bien sûr, j'étais pas du tout enthousiaste. J'ai dit ben non, ça a été ma première réaction. Et donc voilà. Alors j'ai pu y aller de façon alternée, parce qu'il m'a permis d'y aller de façon alternée plusieurs fois une fois par an pendant plusieurs années. Ça a duré 8 ans. Voilà, pendant lesquels j'ai pu vivre des transes, essayer de comprendre ce que c'était et vivre avec quel point la transe était un état intéressant dans la mesure où j'avais plus de force, je ne ressentais quasiment pas la douleur.
Oui.
Et je vivais un phénomène dissociatif, c'est-à-dire que tout d'un coup, je me voyais en train de faire des choses que je n'avais pas décidé de faire. Et pour l'Occident, arriver à démontrer quelque chose, on passe par la science.
Alors, on va plonger dans la science, hein, mais pour bien comprendre, vous avez ensuite montré que c'était possible de déclencher cette transe vous-même, comme ça ?
Exactement. Non seulement on a démontré par les recherches qu'on a menées ensuite, à partir de 2007, que la transe est un phénomène cognitif, c'est un accès possible pour chacun de nous. Et donc ce serait un potentiel qui est plutôt en sommeil, qu'on sollicite peu.
Ouais.
Et après on a démontré donc qu'il était possible de l'induire par la seule volonté.
Alors la science, allons-y. Dans le journal du dimanche, il y a quelques semaines à votre sujet, on lisait « Longtemps, on l'a envoyé consulter un psy. Aujourd'hui, c'est elle qui forme les spécialistes de santé mentale. » C'est-à-dire qu'au début, les spécialistes ici, on a dû vous recevoir avec un œil un petit peu méfiant, Corinne.
Ah mais complètement. Le premier médecin que j'ai vu, je lui ai parlé de mon histoire, donc c'est le début du livre, hein, et donc cette consultation où à la fin de l'entretien, il me donne une carte et il me dit « c'est un psychiatre ».
Je fais un petit saut dans le temps. Vous êtes là aujourd'hui pour nous en parler, donc pas dans un hôpital psychiatrique. Ensuite, qu'est-ce qu'on a découvert sur votre cerveau quand enfin on a démarré des recherches ?
Alors les premières, c'était à Edmonton au Canada, dans un hôpital psychiatrique, j'ai pas échappé.
Vous passez de la transe chamanique, de la tradition, faut bien comprendre, du tambour, aux électrodes sur la tête, hein, au laboratoire. On a changé d'ambiance quand même.
Ah oui, complètement. Complètement. D'abord, quand j'ai fait une démonstration devant ces neuropsychiatres, psychiatres de l'hôpital de Edmonton, j'arrivais à maîtriser l'auto-induction de la transe. J'avais plus besoin de tambour, plus rien. Et donc, quand ils ont vu ça, ils ont tout de suite comparé ça à des pathologies qu'ils connaissaient, hein, qui étaient la schizophrénie, syndrome de personnalité multiple, dédoublement de personnalité violent. Enfin voilà. Et schizophrénie, manie, dépression quand même, les trois à la fois. Donc le professeur Florent Ri qui dirigeait ses études, a eu très très peur. Il m'a dit que j'avais un cerveau sain. Il a quand même confirmé hein, que mon cerveau était sain dans un état de conscience ordinaire, mais quand j'étais en transe, lui, il voyait ça comme un état psychopathologique et il disait c'est une psycho généralisée, cette histoire-là. Parce que si je le compare à mes groupes contrôle pathogènes, il y a toutes les pathologies à la fois.
Alors, je le reprécise pour nos auditeurs, Corinne Sombrin, vous avez un cerveau qui est parfaitement sain, mais vous êtes capable de vous mettre en mode schizophrène pathologique à la demande.
Il leur a fallu 10 ans pour reconnaître que c'était pas du tout un état psychopathologique. C'est en fait un état du cerveau qu'on connaissait pas et qui était non seulement un état dissociatif, certes, mais non pathologique, mais probablement un des futurs outils que la psychiatrie pourrait utiliser dans la palette de ressources auxquelles elle pourrait se référer.
Sur la transe, aujourd'hui, vous dites, Corinne Sombrin, qu'on peut tous le faire, tous se mettre en transe, c'est facile ?
On se met à volonté en transe comme on peut induire une méditation, on peut induire une transe. On a formé plein de gens qui sont capables, comme moi, d'auto-induire une transe et de vivre une transe.
Mais je vous coupe, Corinne Sombrin, à quoi est-ce que ça peut bien nous servir ?
Eh bien, on s'en sert beaucoup plus qu'on ne pense. C'est une stratégie de survie qui est proposée de toute façon par le cerveau dans les états d'urgence. Où des gens vous disent, tout s'est ralenti autour de moi, j'ai réussi à soulever cette voiture, je ne sais pas comment j'ai fait. L'état de conscience ordinaire est trop lent pour réagir à une situation d'urgence.
Alors, dans quel cas de figure est-ce qu'on pourrait l'utiliser ? Je repensais au travail de la violoncelliste Claire Aupert. Elle joue de la musique pour atténuer la douleur des malades. Est-ce qu'avec vous, Corinne, on est dans quelque chose de similaire ?
Il y a des processus de réparation personnelle qui se mettent en route. On va commencer une étude clinique en oncologie et voir si la pratique de la transe améliore au moins déjà leur qualité de vie. Et on a aussi commencé un protocole sur la douleur chronique parce qu'on s'est rendu compte au travers de quelques tests pilotes que la perception de la douleur avec la pratique de la transe, elle s'apaisait petit à petit. Voilà, donc on ne sait pas pourquoi, mais c'est ce qu'on cherche.
Aujourd'hui, quand vous vous présentez dans un laboratoire ou dans une université, on ne vous prend plus pour une folle.
Ah non, plus du tout. Alors ça fait plaisir, hein. C'est une sacrée revanche. Et puis surtout, par exemple, quand on forme les psychiatres à la transe, et où ils se mettent c'est arrivé déjà à faire la mouche, à avoir l'impression qu'ils sont une mouche, et voilà, ça nous fait beaucoup, on rit tous ensemble, hein, on rit tous ensemble parce qu'ils comprennent. Le fait de vivre des transes a permis d'agrandir leur palette d'interprétation des symptômes.
Aujourd'hui, vous vous dites chamane ?
Ah mais non, mais moi je m'en fiche de ça. Vous savez très bien que ça m'énerve quand on dit ça. C'est comme si on disait en fait, parce qu'on sait réciter une prière, on est curé. Voyez ? Et en fait, la transe est un phénomène cognitif qui était là bien avant que les chamans l'utilisent.
Alors quand on parle d'hypnose, il y a l'hypnose thérapeutique et l'hypnose spectacle. Et on nous demande de bien les dissocier. Vous aussi, c'est spectaculaire quelque part, Corinne Sombrin. Vous êtes capable, là, dans un studio de radio, le matin, de vous mettre en transe aussi simplement ?
Absolument, absolument. Mais tous les transeurs que j'ai formés, ils sont tous capables d'induire la transe comme ça.
Mais vous, vraiment, comme ça ?
Mais oui, mais tous, hein.
Vous voulez que je le fasse, je peux le faire si vous voulez. Alors déjà, est-ce que ça se fait de demander ça ?
Mais bien sûr, ça se fait. Donc vous voulez vraiment que je me mette en sens, ça ?
Chiche.
Et ça va faire des sons forts, en fait, ça, je ne sais pas.
On a de bons micros.
Bon, d'accord.
Tout le long, vous êtes avec moi, là ?
Bien sûr.
Et ailleurs en même temps ?
Et ailleurs en même temps. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est-à-dire que les deux intelligences...
Corinne, pardonnez-moi, je vous coupe, mais vous avez changé de voix après. Ça vous fatigue ?
Non,
pas du tout.
Non, pas du tout. Mais ça fait changer la tessiture de la
d'accord,
voix.
D'accord.
Voilà, et puis on se met à faire des sons, des gestes, des trucs comme ça qu'on a jamais fait et qui sont parfois très très impressionnants de complexité. Mais on produit des fréquences en fait. On produit des fréquences et ces fréquences ont un sens probablement sur notre état.
On retrouve dans vos descriptions des effets des drogues de synthèse ou de substances hallucinogènes.
C'est un projet de recherche qu'on a aussi, c'est de voir qu'on est capable soi-même de de produire les mêmes neurotransmetteurs que lorsqu'on prend du LSD ou de la MDMA. Je vais faire une intervention à UPenn, à l'université de Pennsylvanie, avec une psychologue, avec Nadine Krisberger, avec qui on travaille, parce qu'ils sont au courant de nos travaux, et ça les intéresse de voir que sans rien, on peut aussi avoir les mêmes effets.
Mais alors si sans rien on peut avoir les mêmes effets, moi j'extrapole, on peut imaginer traiter la toxicomanie, la transe c'est un subutex ?
Bien sûr, sauf que ça demande un effort au départ. Ça demande un effort. On n'a pas le shoot qui va nous emmener directement dans l'état de transe. Oui. Au début, ça prend à peu près 2 mois pour arriver à accéder à l'état. Donc, c'est pas pour les feignasses.
Oui, non, mais vous avez mis 9 ans. On peut peut-être accepter 2 mois de travail. Merci, Corinne Sombrin.
Ouais, merci à vous, Mathieu.
Merci beaucoup. La Diagonale de la Joie, c'est chez Albin Michel. Lisez et puis formez-vous à la transe. À bientôt.
Pas trop.
Pourquoi ?
Parce que on fait pas beaucoup de stages et qu'on n'a pas beaucoup de place. Mais ça viendra. Il faut déjà former les formateurs et puis après ça viendra.
Patience alors. Merci mille fois. Europe 1, Mathieu Bellier.